Parler aujourd'hui d'une femme remarquable, d'une femme du XXe siècle, une vénérable, oui, vénérable, qui, une Italienne, et on a toutes les raisons de s'y intéresser, car depuis déjà de nombreuses années, depuis plus de 40 ans, des femmes à Montréal, qu'on appelle les filles de Saint-Paul, travaillent parmi nous, à nous éclairer, à nous faire vivre, à nous faire connaître ce qu'il y a de plus intéressant dans les imprimés, particulièrement les livres. Et c'est un travail extrêmement important que d'ouvrir des librairies chrétiennes un peu partout dans le monde. Mais ce n'est pas tout ce qu'elles font. Ce sont des filles en action, les filles de Saint-Paul. Elles sont dans l'édition aussi, comme les pères de Saint-Paul sur le boulevard Henri Bourassa, qui sont au fond leurs frères. Ces deux communautés-là ont été fondées par Albert Leone, mais les filles de Saint-Paul considèrent aussi leur fondatrice comme étant Mère Thécla Merlot, M-E-R-L-O. Quelle femme, il faut vraiment la connaître. Vous vous demandez pourquoi elle s'appelle Thécla, c'est qu'elle s'appelle Thérèse de son nom de baptême. Elle est née à la fin du siècle dernier et elle a pris en religion le nom de Thècle. C'est d'après les actes des apôtres, hein? Paul, je vous en ai parlé le 25 janvier de la conversion de Saint-Paul. Cette émission a beaucoup plu. Combien de gens ont voulu avoir la cassette pour réécouter tout ça? Eh bien, Paul, en fuyant Antioche, était venu à Iconium. Hein? Il y avait été reçu par un certain Onésiphore. C'est un nom qu'on voyait autrefois. Il y avait des gens ici qui s'appelaient Onésiphore. Oui, oui. Ça peut surprendre les jeunes, mais c'était un nom de baptême. Et puis donc, il était dans la maison de d'Onésiphore. Les chrétiens se sont réunis pour entendre Saint-Paul. Puis dans l'assemblée se trouvait une nommée Thècle, qui était fiancée. Puis après avoir entendu Paul prêcher la doctrine du Christ, elle était fascinée. Puis elle n'a pas pu en quitter la pensée. C'est ça qui est important. Elle a entendu Saint-Paul. Elle a été fascinée. Elle n'a pas pu changer d'idée. Là. Et son fiancé était mécontent de ce résultat. Alors, il l'a fait comparaître devant le tribunal du juge. Et c'est Paul qui a comparu aussi, qui a été condamné à la prison. Thècle a obtenu, elle, du geôlier qu'il la laisse pénétrer auprès de ce prisonnier pendant la nuit. Elle a aidé Saint-Paul. Le lendemain, le gouverneur l'a fait comparaître, elle, en même temps que Paul. Et voilà que Paul a été flagellé, chassé de la ville. Et Thèque, elle, comme rien ne pouvait l'ébranler dans sa nouvelle foi, elle a été condamnée, brûlée vive. Et on dit qu'elle a pu échapper au bûcher. C'est donc une femme courageuse que cette Thèque, et je crois que ce nom curieux mérite bien d'être porté par cette femme qui a fondé les filles de Saint-Paul. Un des derniers en date là, des avant-postes missionnaires occupés par les filles de Saint-Paul, imaginez, c'est à Port Moresby, puis la capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elles sont sur les cinq continents. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est une grande île là, qui est séparée de l'Australie par un simple détroit. Et on voyait, il y a quelques jours à la télévision, je crois que c'est avant-hier, sur un poste américain, on voyait les indigènes là-bas, qui, lorsqu'ils ne sont pas chrétiens, ont des mœurs absolument épouvantables et extrêmement anti-féministes. Leurs femmes sont considérées comme des rien du tout. Bon pour garder les cochons et faire des enfants, mais on ne vit pas avec elles, on ne s'en occupe pas. Et c'est épouvantable. Heureusement qu'ils se convertissent petit à petit au christianisme, et c'est l'archevêque du lieu lui-même, Mgr Peter Kurungu, qui les a appelés, les filles de Saint-Paul. Et la petite communauté de trois sœurs a pris la responsabilité de la librairie catholique dans la capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et puis ils visitent les malades, les familles, les écoles, les points de diffusion de la presse. Elles entrevoient la possibilité de préparer aussi des programmes religieux pour la radio et la télévision. C'est ce que nous faisons. Et c'est pourquoi, pour cette 200e émission, je suis heureux de célébrer leur fondatrice, cette femme étonnante. En 1923, Thècle Merlot est déjà depuis 8 ans dans la petite équipe de l'abbé Alberione, là, le fondateur des Pères de Saint-Paul et des Sœurs de Saint-Paul. Elle l'a fondée avec lui. Et depuis un an, elle est supérieure des filles. Ce qui, dans le langage du lieu, là, signifie des jeunes filles. C'est les expressions italiennes. Et toutes ces femmes portent la tenue des paysannes piémontaises de l'époque. Bon. Ces filles-là n'auront pas de véritable uniforme avant 1928. D'ailleurs, c'est en tant que styliste, on pourrait dire, que cette sœur Tecla, que tous les talents, va faire le premier costume. C'était un très beau costume qu'elle portait, très classique, très simple, très sobre. Elle ne le porte plus aujourd'hui. Et donc, ces filles de Saint-Paul, au travail, au début, ont un tablier à fleurettes sur fond sombre, avec deux grandes poches. Elles portent des petits sabots de cuir à semelles de bois. Ça commence très, très pauvrement. Je trouve ça toujours étonnant quand on lit l'histoire de toutes ces choses-là. Comme ça commence simplement, hein. Elles ont les cheveux tressés, roulés en chignon sur la nuque. Elles sont humbles, courageuses et alertes. Elles le sont demeurées, d'ailleurs. Je les connais bien. Et des années après, bien mère Tecla va dicter aux filles de Saint-Paul 10 conseils, si on peut dire. Et c'est très intéressant, elles appellent ça le décalogue de la promptitude. Elle veut, mère Tecla, Merlot, que ses filles soient dynamiques, concrètes, des femmes du 20e siècle. Alors voici les 10 conseils. Elles doivent être promptes dans la manière de traiter avec les supérieurs et les sœurs. Elles doivent être promptes au téléphone, au parloir, avoir des conversations brèves et édifiantes. Troisièmement, doivent être promptes dans la correspondance, ne pas écrire des lettres trop longues. Quatrièmement, elles doivent être promptes à exécuter les ordres reçus. D'autre part, doivent être promptes aussi à se rendre d'un poste à un autre, sans trop de regrets et de tristesse quand elles sont nommées ailleurs, à un autre poste, à une autre responsabilité. Et sixièmement, elles doivent être promptes dans les saluts, quand on part et quand on arrive, pas s'épancher sur toutes sortes de choses trop sentimentales. Septièmement, prompte à la librairie et dans la distribution des films. Et huit, prompte dans les travaux. Et neuf, prompte dans la démarche, avoir une certaine dignité religieuse, mais sans affectation. Elles sont bien comme ça. Et dixième et dernier conseil, prompte au confessionnal. Je trouve ça bien drôle. Une exposition claire et simple et du nécessaire, rien de plus. En somme, ne pas ennuyer les prêtres avec toutes sortes de petits détails. D'ailleurs, on raconte une anecdote qui est bien sympathique. C'est une fille de Saint-Paul japonaise qui demande la liste des 10 vitesses. Elle appelait ça les 10 vitesses. Elle connaissait pas très bien l'italien. Alors, sur le dictionnaire, elle avait lu vitesse comme synonyme de promptitude. Alors, on lui expliquait qu'il n'était pas besoin de courir. Il suffisait d'être efficace. C'est ça que ça veut dire, les conseils de Mère Merlot, d'être efficace et dégagée dans ses attitudes. Et la petite japonaise ne maîtrisait pas encore l'italien, comme je vous ai dit, mais elle avait saisi le style de la première supérieure. Première supérieure, ça paraît un titre peu en accord avec ce qu'était cette Tecla Merlot, ou Tec, si vous voulez, Merlot. Elle était humble, sans autosatisfaction. Mais c'est aussi comme beaucoup de termes dans le langage de ces femmes à son histoire, hein. Lorsque les 9 premières religieuses ont émis leur profession perpétuelle privée le 22 juillet 1922, comme vous voyez, c'est tout récent, hein? Bon, 75 ans environ. Bien, elles ont pris un nouveau nom, et c'est comme ça qu'elle s'est appelée Tecla. C'est, comme je l'ai dit, la disciple de Saint-Paul. Elle serait la première supérieure générale, la cofondatrice, en parallèle avec le père Alberione, le fondateur, là, le premier supérieur général, des Pères de Saint-Paul, dont je vous ai parlé le 26 novembre dernier. La cassette existe. Le père Alberione disait, nous sommes nés sur la paille, comme à Bethléem. Et c'est vrai. Sœur Assunta Bassi l'a expliqué. Elle avait 73 ans quand elle a raconté ça. 4 de ses sœurs, sur les 7 enfants que comptait sa famille, sont entrées dans cette congrégation Saint-Paul. Elle disait, nous étions à Liciana en Toscane, la belle Toscane en Italie. Et à 12 ans et demi, elle dit, j'y aboutis à Alba. Alba, ça veut dire la blanche, hein, c'est la ville, la région, Alba, où tout ça a été fondé, hein, dans le nord. La sixième terminée, dit cette vieille sœur, il n'y avait pas d'autre classe dans notre village, or je voulais devenir institutrice et le curé de la paroisse m'a conseillé de poursuivre mes études dans un lieu où il avait lu le nom dans la revue Vita Pastorale, et puis il dit, vous étudiez et vous travaillez, on vous donne une cassette contenant les lettres de l'alphabet, vous les y pêchez et on en fait des livres. Pour ça semblait un peu mystérieux, c'était une imprimerie quoi. Elle ajoute que ce qu'on pouvait lire, au bout de 3 ans, si tu décides de te faire sœur, tu restes. Alors où est-ce que c'était? C'était à Alba. Je ne savais pas où c'était, mais ce nom me plut aussitôt. Alba, Alba, répétais-je, enthousiasmé à mon père. Et le 2 janvier 1927, elle dit, ma sœur Lina, qui est sœur de Saint-Paul, elle, en Espagne, sous le nom de sœur Épiphanie. Mon Dieu, quel nom! C'est très ces noms. Et moi, a dit, nous parlions, pourtant c'est beau l'Épiphanie, c'est la manifestation de la divinité de Jésus-Christ. Mais, mon Dieu, il me semble qu'il y a d'autres noms. Et moi, bien, elle dit, nous partions accompagnés par notre père. Nous avons pris le train à 4h30 du matin. Et nous sommes arrivés à Alba 7h du soir. Et je m'étais imaginé un couvent, tel qu'on en parle dans les livres, avec de grands escaliers, de vastes salles et des sœurs en cornettes. Il faisait nuit. L'adresse correspondait à une maison posée sur un bourbier, précédée de planches enjambant des flaques fangeuses. Nous avons sonné et un prêtre s'est présenté. Il a dit, êtes-vous des petits garçons ou des petites filles? Elle a répondu, nous sommes des petites filles. Alors il leur a répondu, alors frappez de l'autre côté. Et une porte s'ouvre et en haut de l'escalier apparaît une personne portant le tablier des femmes du pays. Un châle, les cheveux tirés et arrêtés par un petit peigne au haut de la tête et 2 yeux. Qui est-ce? Une sœur? Non, me suis-je dit. Elle descend et se présente. Je suis mère Tecla. Elle nous apporte du café au lait pour nous réchauffer. Il nous mène dans un dortoir. Elle dit, couchez-vous tout de suite, pauvrette, vous êtes fatiguée. Alors nous nous attardons à dire au revoir à notre père, puis timidement, nous regardons autour de nous. Nous nous arrêtons pour tendre l'oreille vers la classe des petites. Mère Tecla, au bureau du professeur, donnait le petit mot du soir. Aujourd'hui, nous avons écrit la 2e page de la nouvelle année. Comment l'avons-nous écrite? Avec vanité? C'est de l'eau perdue alors. En étudiant et en travaillant, ça c'est une bonne encre. Avec foi, c'est de l'argent. Mais avec amour, ça c'est de l'or. Et je pensais comme elle parle bien. 2 jours après, le 4 janvier, nous commencions les cours et Mère Tecla nous enseignait l'arithmétique. Elle ne disait pas un mot de plus qu'il ne fallait. Avant la leçon, elle lisait un passage de l'Évangile. On fait plus ça maintenant, hein? Avant la leçon, elle lisait un passage d'Évangile. Elle prenait le livre, le baisait, l'ouvrait, lisait, le fermait et le posait comme un objet précieux. J'étais enfant, mais cela a marqué ma vocation en me communiquant l'amour de la Bible. C'est dire que cette fondatrice aimait la Bible. Nous sommes en quelle année? En 1927. Quand les gens nous disent que la Bible chez les catholiques, on n'aimait pas ça, et ya, 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 toutes sortes de choses. C'est plein de cas qui nient ces rumeurs insensées. Alors donc, il se passe toutes sortes de choses merveilleuses. Des choses merveilleuses. Quand nous avions déjà plusieurs filiales, on raconte qu'elle se souvenait de chaque sœur et de ses problèmes. Elle suivait chaque maison, connaissait l'actif et le passif de chacune. L'économat général était son petit cahier. Elle n'avait pas de diplôme, Mère Tecla Merlot, mais elle possédait une grande sagesse. J'ai été conseillère dans son gouvernement, dit une sœur. Lorsqu'on ne trouvait pas la solution d'un problème, elle levait la séance et elle disait, « Comme nous sommes pauvres, allons prier. » Au début, cela m'ennuyait. Je pensais, « C'est commode de s'arrêter et d'aller prier sans conclure. » Mais quelle leçon j'ai reçue de son humilité et de sa foi. Au bout de quelques jours, elle nous appelait et nous disait, « À la chapelle, il m'est venu cette idée. Qu'en pensez-vous ?» Et elle nous exposait la meilleure façon de résoudre le problème. Ah, il était énergique. Et parfois, ses réponses paralysaient son interlocutrice. Ça arrive, ça, chez ces saints. Ils ont un caractère tranchant parce qu'ils sont à la fois et intelligents, mais la grâce leur fait intelliger ou comprendre des choses encore qui dépassent l'intelligence et le raisonnement. Hein. Ils voient loin. Alors, la personne qui réconcilie, elle dit, je lui ai dit que ça paralysait comme ça. Et elle dit, c'est vrai, je suis impulsive. C'est un héritage de famille, mais je m'en aperçois toujours après et je le regrette. Alors, la sœur raconte, je n'ai jamais pu oublier son regard à ce moment-là. Ensuite, elle se hâtait d'aborder la personne qu'elle avait pu heurter, cherchant à réparer. On raconte qu'en 1955, elles avaient fondé la revue féminine Cosy. Et Mère Merlot nous lançait sans crainte sur la route. Elle comptait sur notre maturité pour traiter avec les typographes, les journalistes, les photographes. Dans le journal, je m'occupais de la section récit et je devais lire de tout pour choisir les nouvelles et le feuilleton. Et un jour, Mère Tecla m'appelle. Je ne doute pas de toi, mais tu lis trop. Tu es jeune. Ne penses-tu pas que certains écrits peuvent te troubler? Et moi, je dis, non, non, ne vous préoccupez pas, je suis entraîné. Avant de me faire sœur, j'ai lu Tolstoï, Victor Hugo et bien d'autres. Je vous dis ça parce qu'il était habituel, je dirais, que des femmes chrétiennes, jeunes, intelligentes, cultivées, qui avaient de l'allure, et qui s'ennuyaient dans une vie plate, entraient dans ces communautés, et dans cette communauté en particulier, pour aller justement faire quelque chose sur le plan intellectuel, dans la société, dans l'Église. Et puis, on dit que Mère Tecla était sage comme les femmes de la Bible. Elle parlait peu, elle s'exprimait beaucoup par le regard, soit pour approuver, soit pour blâmer. Elle était née à Castagnino, Nito, d'Alba, le 20 février 1894, deuxième des quatre enfants de Tori Merlo et de Vincenza Rolando. C'était la seule fille de la maison. Elle était petite et délicate. « Quand tu es dans la cour, on confond que les poules », lui disait tendrement sa mère. Et alors, elle n'a pas étudié bien longtemps. Et puis, elle étudiait avec une institutrice aussi, Maria Chiarla. Puis, à 12 ans, elle a commencé le métier adapté à sa santé délicate, c'est-à-dire la couture, l'ourlet à jour, le petit point. Quand les cours de coupe, de couture et de broderie des sœurs de Sant'Anna, des sœurs de Sainte-Anne d'Alba, ne suffisent plus, bien ses parents envoient Thérèse à Turin. Oui, on est encore à Turin. Comme la semaine dernière avec Saint-Jean Bosco, chez des personnes connues, de confiance, évidemment, pour qu'elle devienne une bonne couturière, puis à 16 ans, elle revient chez elle, dans son petit village, son métier bien en main. C'est là que l'abbé Alberione va l'accueillir quelques années plus tard. La voix de Thérèse, elle s'appelait Thérèse, de son nom de baptême, était de devenir religieuse. Ce qui l'avait prédisposé à ça, c'était la piété de son entourage. Elle avait une bonne famille, la générosité naturelle aussi, mais l'exemple des saints piémontais. Il y avait beaucoup de saints autour d'elle là-bas. Elle s'était tournée aussi vers la famille religieuse du père Cotolengo, dont je vous parlerai un jour. Ah, quel homme fantastique, le père Cotolengo. Mais pour cette vie spéciale, au service des derniers, comme font les communautés qui s'occupent des plus pauvres, il fallait de la robustesse physique, mais elle était considérée comme anémique. Elle a été écartée. Moi aussi, j'avais été considéré comme anémique à 19 ans, puis on m'avait renvoyé de Saint-Benoît-du-Lac après 2 ans. On avait peur. En attendant, donc, l'autre voie qui devait se croiser avec la sienne, c'était prêt. À Alba, il y avait un jeune prêtre, lui aussi de faible constitution physique, c'est lui qui va la diriger vers le père Alberione. Quand le Seigneur veut, hein? Quand le Seigneur veut. Alors, l'atelier féminin naît en 1915 dans un local de la place Querasca à Alba, où l'année précédente, le jeune prêtre Alberione avait fondé l'école imaginée de typographie. Ça s'appelait comme ça, l'école de typographie, qui était équipée de quoi? Ben, d'une petite machine à imprimer à pédale, de quelques cases de caractères. Puis il y avait 2 garçons qui travaillaient avec lui. Tout ça a commencé comme ça, c'est inouï. Et c'est sur 5 continents aujourd'hui. Phénoménal, phénoménal. Mère Tekla va raconter, nous occupions le local laissé libre par les jeunes de l'école de typographie, ce qui faisait que souvent, nous nous disions, qui sait quand nous pourrons faire le même travail? Mais nous n'ajoutions pas autre chose. Et là, il y a la guerre 14-18, la grande guerre mondiale. Alors l'atelier féminin ne devait pas assembler des livres, mais plutôt faire des chemises pour les soldats au front. Et l'occasion de passer des machines à coudre aux presses d'imprimerie arrive finalement, quand l'évêque de Suse demande l'aide de l'abbé Alberioni pour son petit journal diocésain. Et tout ça commence si humblement qu'on reste absolument stupéfait de l'évolution fantastique, fantastique. La branche masculine des pères et des frères de Saint-Paul de l'abbé Alberioni imprime des livres, des opuscules, des feuillets de prière, des vies de saints aussi. Et les piles s'amoncellent dans le magasin, la diffusion va au ralenti, et le fondateur mobilise alors ses filles, les filles de Saint-Paul. Mais voici d'autres commandos tout près. Ce sont les propagatrices qui inaugurent les visites à domicile, le porte-à-porte de l'apostolat. Ils ne sont pas gênés. Hein? Et c'est encore une sœur du nom d'Assunta Bassi qui décrit comment travaillaient les commis voyageuses du Seigneur. Elle disait, j'avais à peine pris l'habit lorsque je partis pour ma première tournée de propagation. C'est le diocèse de Pavie en Italie. Nous étions en équipe de deux, les curés ou des familles indiquées par eux nous logeaient. Nous frappions aux portes. Bonjour, nous sommes les filles de Saint-Paul. Nous visitons les familles pour proposer de bonnes lectures. Certains nous faisaient entrer, mais d'autres nous fermaient la porte au nez. Devant les humiliations, je répétais, je ne dois pas rougir de l'Évangile. Qu'est-ce qu'ils vendaient? Bien, le joyeux Don Bosco, ou mes prisons, ou Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Jésus au cœur des jeunes, ou les maximes éternelles. Or, qu'est-ce qu'on imprime aujourd'hui chez les pères de Saint-Paul? On imprime toutes sortes de belles choses. Et parmi les derniers livres qu'on a publiés, je vous recommande Pierre van Bremen, un jésuite, Trouver Dieu en toutes choses, pour que la vie trouve sa place dans la foi. C'est publié chez eux. Un très très beau livre que je vous recommande, qui a un peu plus de 200 pages, remarquable comme spiritualité, Trouver Dieu en toutes choses. Et un autre de leurs derniers livres, c'est de Bernard Hering, ce grand théologien, discuté, mais très intéressant, c'est un plaidoyer pour les divorcés remariés, avec une préface du fameux père Michel Legrain, que j'avais interviewé à Rencontre à la télévision. C'est traduit de l'allemand, c'est un très beau livre, où il est dit que la situation des divorcés remariés fait partie des questions les plus pressantes qui se posent à l'Église catholique aujourd'hui. Et la position de l'Église, qui en appelle au commandement de l'indissolubilité du mariage, apparaît difficilement compatible avec l'ensemble de l'attitude de Jésus, qui n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Et il est prudent, mais il est très bien, ce théologien. Il est merveilleux. Alors, c'est aux éditions Médiapol, publié par les Pères de Saint-Paul. C'est excellent, et je vous le recommande. À Rencontre spirituelle, il est question d'une vénérable de notre Église du XXe siècle, la servante de Dieu, sœur Tekla Merlot, une sainte, je l'espère qu'elle sera canonisée, une femme remarquable, vraiment du XXe siècle. Et en 1931, la communauté des filles de Saint-Paul qu'elle a fondée se décide à participer à l'apostolat à travers le monde entier. En regardant le globe terrestre, il se dit que notre paroisse, c'est le monde. Et le père Alberioni met le doigt sur un point précis, le Brésil, São Paulo. Et le 21 octobre 1931, c'était à Paris, eh bien les deux premières sœurs de Saint-Paul se rendent là-bas. C'est une des expéditions les plus aventureuses qui nous a été racontée par sœur Maria Cleofé Zanoni. Elle a raconté ça à 76 ans avec beaucoup d'émotion et d'enthousiasme. Elle dit, je suis de Vérone et à 18 ans, j'ai décidé de devenir missionnaire. Et en 1934, à peine entrée au noviciat, j'avais posé sur la table de Mère Tekla un billet. Je n'ai pas fait d'études spéciales, mais si vous voulez, disposez de moi pour n'importe quel pays du monde. Et les mois passent, aucune réponse. Et un matin, la première supérieure, c'est-à-dire Mère Tekla Merlot, entre au réfectoire. Je viens vous dire le nom de celles qui iront en mission, et j'étais en train de manger une pomme, je reste bouche bée, le cœur battant à tout rompre, quand elle me dit « Tu partiras pour la Chine », et je me suis agenouillé pour lui dire merci. Imaginez, partez pour la Chine, c'est absolument phénoménal. Et le 8 janvier 1937, après 2 ans de réflexion et de préparation, eh bien, elle est partie avec une autre sœur, elles étaient prêtes. Elles avaient les billets pour le paquebot, le passeport, le crucifix des missionnaires, un petit trousseau, un peu d'argent, à peu près rien, quoi. Et de la maison généraliste de Rome, Mère Tecla, raconte cette sœur, nous accompagne à la gare, où nous prenons le train pour Naples, d'où nous embarquerons, et dans le train, nous gardons silence, de joie, mais aussi de douleur. Nous pensions que nous ne reviendrions jamais plus. Et la mère Merlot, Mère Tecla, nous a laissé en larmes. Car cette femme décidée, qui avait beaucoup de caractère, avait aussi un cœur brûlant. Elle avait une petite lettre pour chacune. Elle dit « La mienne s'est perdue en Chine quand nous avons été évacués. Mais je me souviens très bien de ce qui était écrit. C'était écrit « Aie confiance dans le Seigneur. C'est lui qui fait toutes choses. Nous sommes ses instruments. Restez unis. Écrivez souvent. » Et je te conseille de tenir un journal. Elle dit, c'est ce que j'ai fait, mon journal couvre 28 ans, du jour de notre départ jusqu'à mon retour en 1965. Et ce journal personnel de cette sœur Zanoni ne devait être que chinois. On y trouve la guerre sino-japonaise, l'invasion des Philippines au cours du second conflit mondial, la révolution de Mao, et on y parle de la moitié de l'Asie. C'est Mère Tecla qui l'avait dit, « Là où on vous accueillera, commencez. » Je pense que c'est une des paroles clés de cette sainte étonnante. « Là où on vous accueillera, commencez. » C'est clair, c'est simple, pas de petite spiritualité à l'eau de rose. Non, c'est clair, c'est humain, et c'est plein de confiance en Dieu. « En Chine, personne ne voulait de nous, dit la sœur, jusqu'à nous rencontrions l'évêque de Nankin, Mgr Yupin, oh, j'aimerais bien vous en parler un jour, c'est un évêque extraordinaire, qui fut pour nous l'envoyé du Seigneur. C'était un confucianiste converti, ex-journaliste, il nous a reçus à bras ouverts. Vous êtes vraiment les sœurs que je cherchais, venez à Nankin, je vous donnerai 2 chambres et un catéchiste qui vous enseignera le chinois. J'ai préparé un catéchisme. Les pères l'imprimeront et vous le diffuserez. » Et c'est toujours dans cette confiance extraordinaire qu'elles font des travaux fantastiques. Le Japon, les Philippines, Manille, etc. 3 autres fois, d'ailleurs, Mère Tecla va venir en Asie. Elle va aux Philippines visiter ses filles qui, entre-temps, œuvrent à d'autres maisons, hein, dans toutes sortes d'endroits. Elle dit, notre supérieur général est venu en 1962, 2 ans avant sa mort. Elle est morte en 64. Hein. Elle n'était pas bien. Il avait déjà été opéré d'une tumeur au sein. Elle se réjouissait d'être avec nous. Elle était contente de manger du riz en guise de pain, nous redisant qu'il lui semblait revivre la période primitive d'Alba quand les sœurs étaient très très pauvres. Avant de quitter Manille, elle était triste et nous n'osions pas lui faire une fête d'adieu. Elle s'émouvait d'un rien. Sentait que c'était le dernier voyage. D'autres ont dit que Mère Tecla était sévère et intransigeante, et moi je l'ai connue que cette tendresse. Ça me fait penser au père Congar, on disait de lui qu'il était sévère et intransigeant, et dans les dernières années de sa vie, je n'ai vu qu'un homme plein de tendresse, le fameux père Yves Congar, dominicain, grand théologien de ce siècle. Alors, on raconte dans une anecdote assez amusante, cette sœur raconte qu'après la première visite, Mère Tecla avait promis pour Manille, aux Philippines, une petite machine à imprimer, une massico, ou massicote, c'est une machine, ça, pour ronger le papier, là, qui est utilisée dans l'industrie du livre. Puis elle avait promis aussi des casses de caractère pour imprimer, évidemment. Alors, tout arriva bientôt de 1000 ans, raconte la sœur. Mais pendant qu'on déchargeait le navire, la grue se brisa sous le poids du massico, qui finit au fond de la mer. Tout en pleurs, je lui téléphone à Tecla Merlot. Je lui téléphone en Italie. Et elle, qu'est-ce qu'elle répond cette sainte? Elle dit, ne vous inquiétez pas, c'est moins ennuyeux qu'un péché véniel. Je vous envoie tout de suite une autre massico. C'est pas formidable. Alors, l'appareil est arrivé par retour de navire. Elle dit, nous imprimons notre premier livre destiné aux jeunes filles sous le titre Miss Filipina. Tirage 10 000 exemplaires, qui s'en iront comme des petits pains, ou plutôt comme du riz. Et Mère Tekla rejoint ses filles partout dans le monde. Elle a visité 34 nations, 34 nations, hein. Elle a vu ça de son vivant, elle fonde une communauté, et quelques années plus tard, 34 nations, c'est une vue inouïe. Son premier voyage avait été celui du Brésil, l'Argentine, les États-Unis en 1936. Et le dernier, c'est celui de 1963, un an avant sa mort, c'est le Congo, aujourd'hui le Zaïre. La photo des 27 dernières années de sa vie la montre sur des passerelles d'avion à hélices. Sa valise noire se détachant sur son vêtement blanc, car elle portait un vêtement blanc, le vêtement des missionnaires. Leur vêtement de religieuse était noir, en Occident. Elle va en Afrique, coiffée du casque colonial. En Asie, elle est parée d'une guirlande de fleurs de bienvenue, sur fond de palmiers, puis d'hibiscus. Oui, oui. Elle a un visage creusé. Elle conserve intact des yeux doux, des yeux paisibles, la paix d'avoir accompli ce que Dieu veut. De retour du Mexique, elle écrit aux sœurs, « De l'avion, je vous ai regardé aussi longtemps que j'ai pu. » La correspondance avec les filles de Saint-Paul, ses filles, dispersées dans le monde, était pour elle une tâche sacro-sainte. Et dans les archives de la maison généraliste, là, à Rome, on conserve d'elle 8 000 lettres personnelles. C'est extraordinaire, hein? Elle envoyait périodiquement des circulaires aux communautés. Il n'y avait rien de touristique dans ses voyages, dit-on. Et une phrase ponctue la plupart de ses lettres. « Je vous porte dans mon cœur. » Elle dit aussi « Progresser, s'abandonner entre les mains de Dieu, sortir de soi pour aimer les autres, sortir de soi pour aimer les autres. » Elle dit aussi parfois « Nous nous perdons dans les bagatelles, oubliant que le monde est si grand et qu'il y a tant d'âmes qui tendent les mains vers nous. » De l'Inde, elle écrit « Lorsque j'étais petite, on me disait parfois « Va à Calcutta ». Et j'y suis vraiment venu. Le monde est grand. Nous n'avons pas fini d'en faire le tour. Puis elle écrit aussi de retour de mon long voyage autour du monde. Philippines, Japon, États-Unis, Mexique, Colombie. Je vais vous communiquer certaines choses que j'ai apprises. J'ai appris que nous ne sommes rien. Nous ne comptons pour rien. Et nous ne pouvons rien faire sans la grâce de Dieu. J'ai appris que ne compte que ce qui est éternel. Il y a beaucoup d'âmes qui attendent le salut. Il y a peu d'ouvriers de l'Évangile. Que faites-vous, vous, les jeunes femmes, qui vous ennuyez, là? Elles prennent des postulantes, des novices, les filles de Saint-Paul à Montréal. Oui, oui. Il y a beaucoup d'âmes qui attendent le salut. Il y a peu d'ouvriers de l'Évangile. Il faut se former un cœur missionnaire, cœur généreux, détaché du confort, prêt à tout. Elle avertissait, les moyens doivent être modernes, mais les vertus toujours anciennes. On raconte que Mère Tekla était librement obéissante, docile à la hiérarchie masculine, chose étrange. On dit qu'en bien des occasions, elle a dû se sacrifier. Elle et ses filles. Elle se soumettait aux directives du père Alberione, certaine que c'était un dessein divin qui passait par cet homme. C'est le père Gambi, qui a été directeur des éditions Pauline pendant des années, qui raconte Mère Tekla était la seule personne en mesure de tenir tête au fondateur. À la base, il y avait une estime réciproque. Elle était capable de se montrer franche et de défendre avec force ses propres opinions. On a le témoignage, d'ailleurs, d'une religieuse mère Ignatia Balla, qui a succédé à Mère Tekla comme supérieure générale. Elle dit, « Pendant 30 ans, j'ai travaillé avec elle, et dans la conduite du gouvernement, j'ai apprécié sa capacité à s'adapter aux circonstances sans en être écrasée. Et je l'ai admirée pour sa finesse spirituelle. » Sa finesse spirituelle, c'est très rare, ça. Sa disponibilité pratique, ça aussi c'est rare. Et elle ajoute,
Je sais qu'elle exécutait avec peine certains ordres du fondateur. Elle ne lui a jamais dit carrément non, mais une fois je l'ai entendu soupirer. Il ne peut pas faire plus sombre à minuit. Et la sœur ajoute, je n'ai pas osé lui demander ce qui la faisait souffrir, même si je peux l'imaginer. C'était donc une femme chrétienne, véritable, avec sa personnalité, sa force de caractère, son initiative, cet esprit de décision, cet accueil, ce sens maternel, fraternel, une femme exceptionnelle, quoi, mais obéissante, très difficile. C'est la sœur Assunta Bassi qui a un souvenir précis. Elle dit, le père Alberioni voulait nous faire acheter, pour les tournées de diffusion, un modèle spécial et économique de la moto Guzzi, proposé avec place pour deux sœurs et pour les colliers de livres. Et mère Tecla s'y opposa. Elle dit, j'ai peur pour les sœurs. La Giardinetta est meilleure. Nous en achèterons moins, mais elles sont plus sûres. Certes, elle était obéissante, mais elle obéissait lucidement et le père Alberioni recourait à elle dans les moments difficiles. Mais la maladie a durement frappé cette fondatrice, cette première supérieure. Et le 16 juin 1963, elle est saisie d'une congestion cérébrale avec menace de thrombose. Et en novembre 1963, nouvelle attaque lui enlève quelque chose de bien important pour une communicatrice, l'usage de la parole. Elle ne peut plus se consacrer à la correspondance même, son travail de prédilection. Et mère Ignatia se souvient du jour où mère Tecla a pris une feuille et une plume. Elle a tenté d'écrire quelques mots, mais elle n'a pas pu y arriver. Elle a écarté la feuille avec un geste d'impuissance. Et il y a à peine une trentaine d'années, quoi, le 5 février 1964, la mère Tecla Merlot est entrée en agonie à la clinique Regina Apostolorum, ou Reine des Apôtres, si vous voulez, d'Albano. Quelques-unes de ses filles et le fondateur sont près d'elle. Le père Alberione est effondré de douleur. Il suggère aux sœurs, lisez dans l'Évangile le récit de la Passion de Jésus. Peu après, cette grande malade, mère Tecla Merlot, rend le dernier soupir. 15 jours plus tard, elle aurait eu ses 70 ans. Sœur Chiara Spagnu, une fille de Saint-Paul, de l'avant-dernière génération, énumère ce qu'elle a appris de mère Tecla. Je dirais que son testament spirituel se résume dans ses encouragements. Soyez de vraies femmes. Ainsi, vous serez de véritables sœurs. Écoutez les âmes, et les sacrifices ne vous pèseront pas. Plus on est généreux, et plus on est heureux. Ça rappelle tout à fait Don Colomba Marmion, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, et qui disait, avant d'en faire des saints, il faut faire de nos moines des hommes. La sœur rapporte le regret de n'avoir pu la rencontrer, mère Tecla, pour une dernière fois. Elle dit, nous étions réunis pour la retraite annuelle quand elle est tombée malade. Elle avait l'habitude de nous recevoir une par une par ordre alphabétique afin de ne pas manifester de préférence, mais elle s'est arrêtée à la lettre F. Le tour du S, le mien, de son nom de famille, n'est jamais arrivé. Et on ne nous a plus permis de la voir. Sœur Teresa Merlo, nièce de mère Tecla Merlo, fille de son frère Carlo, était supérieure d'une des deux communautés d'Alba. Et elle dit, mère Tecla m'aimait beaucoup, mais elle se faisait scrupule que les liens de famille ne me procurent des avantages sur les autres. Elle était toute limpidité. Pas de simonie, quoi. Pas d'avantage, parce que c'était sa nièce. Sœur Antonietta Martini déclare, pour moi, son charisme, c'est de n'avoir jamais eu peur des moyens de communication modernes. Parce que son apanage était Dieu. Dans le domaine de l'éphémère, des vérités tronquées, des modes sans lendemain, typiques des médias, elle a apporté les valeurs fondées sur l'éternel. C'est pour ça qu'il faut fonder des postes comme Radio Imari pour rappeler les vérités fondamentales que nos moyens de communication ne portent à peu près jamais. On ajoute, elle était véritablement sûre de Dieu. Aussi accueillait-elle, pleine d'espoir en l'avenir, toutes les vérités nouvelles. J'ai trouvé dans son carnet spirituel une note pour moi extraordinaire. Voici ce qu'écrit Mère Thécla Merlot. M'abaisser au point d'attirer Dieu à moi. C'est bien ça, m'abaisser au point d'attirer Dieu à moi, mais m'élever au point d'arriver à Dieu. C'était, dit quelqu'un, elle a été la tendresse vivante du fondateur Jacques Alberione, ce prêtre remarquable. Pour revenir sur ce sujet de rapporter les choses telles qu'elles sont dans ce domaine de l'éphémère, les vérités tronquées, je ne peux pas m'empêcher de vous parler de deux choses. Vendredi soir, à Radio-Canada, René Aumirois a son émission « Scène de la vie culturelle », 9h25, a abordé le problème d'Eugène Ionesco. Pourquoi parler d'Ionesco? Parce que il y a, à Montréal, une présentation de cette pièce que j'ai ici entre mes mains, publiée chez Gallimard, « Les chaises », pièce extrêmement intéressante, à mon avis. Et Daniel Roussel lui présente au Théâtre du Rhino Vert la cantatrice chauve, puis la leçon de Eugène Ionesco aussi. Or, on a parlé de Ionesco comme étant quelqu'un qui nous montre, par son théâtre de l'absurde, les choses éphémères dans lesquelles nous sommes plongés. Or, ces gens-là, j'ose pas trop tous les nommer, ont parlé, de façon forte, intelligente, de l'aspect superficiel du théâtre de Ionesco. Le caractère, éphémère, justement, des conversations ou des dialogues de ces personnages. Pourtant, il y a une pièce En attendant Godot. On a bien glosé là-dessus. En attendant Godot. Godot, God. En attendant Dieu, quoi. Or, si ces gens avaient un peu de culture, je regrette de le dire, je leur aurais prêté « Méditation religieuse » de Max Jacob, dans lequel on trouve des choses absolument magnifiques. Mais j'aurais prêté surtout « Antidote » de Ionesco, où il y a un témoignage sur l'Église d'aujourd'hui. « Antidote » de Ionesco a été publié en 1977. Page 240, témoignage sur l'Église aujourd'hui. Il dit, ce qui me semble scandaleux, c'est que l'Église semble vouloir s'anéantir dans l'histoire, tant elle a peur d'être hors de l'histoire. C'est aberrant, parce que son rôle est vraiment d'être hors de l'histoire, d'être un pont entre l'histoire et au-delà de l'histoire, de conduire le monde, l'histoire vers l'éternel. Elle doit élever l'histoire vers le surhistoire. Elle doit donner les techniques de la prière et de la contemplation. Elle semble ne plus faire que de la politique et de la démagogie. Ce dont l'homme a besoin, dit Ionesco, c'est justement d'un îlot qui ne soit pas emporté par les vents de l'histoire et qui résiste à la tempête, qui ne soit pas temporel. C'est justement ce que l'Église ne peut plus, ne veut plus, ne sait plus, n'ose plus donner ou proposer. Et dans un livre encore plus récent, d'Eugène Ionesco toujours, « La quête intermittente », toujours publié chez Gallimard, il dit de Dieu, « On réapprend Dieu. La croyance, la foi ne sont plus risibles. Dieu à nouveau se montre. Je répète ce que disait Malraux, le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. » Quelque chose est gagné en effet, il est de moins en moins ridicule de croire en Dieu, de le prendre en considération. Il dit aussi, ça c'était à la page 89, mais il dit aussi à la page 92, si la prière n'était pas efficace, qu'est-ce qui pourrait l'être? Voici ce qu'il dit, hein, de la prière. Page 95. Il parle de choses absolument étonnantes. du sensuaire de Turin. Il en parle de façon absolument magistrale. Il parle ailleurs de toutes sortes de choses, de la fidélité dans le mariage, la vanité des vanités, vanité des vanités. C'est tellement merveilleux, la quête intermittente chez Gallimard, par Eugène Ionesco, de l'Académie française. Mais si ces gens à la télévision avaient lu ça, ils n'auraient pas dit des paroles qui les ramenaient au niveau des rhinocéros, personnages d'une des grandes pièces de Ionesco, le rhinocéros, où tout le monde est conforme et plonge dans une conformité abracadabrante. Or, les filles de Saint-Paul et les pères de Saint-Paul publient justement des livres comme je vous disais tout à l'heure. Je vous rappelle l'un d'entre eux, « Trouver Dieu en toutes choses ». Et c'est quand on lit des ouvrages comme ça que notre cœur s'élève, où on peut lire aussi, toujours publié chez Médiapol, donc la maison d'édition des pères et des sœurs de Saint-Paul, « Dire Dieu par les médias ».« Dire Dieu par les médias ». Quel beau titre de Domenico Agasso. C'est la vie de Mère Tecla Merlo. C'est un beau livre avec de belles photos de 220 pages que je vous recommande fortement pour connaître cette femme et peut-être pour quelques-unes d'entre vous de désirer la suivre. Car ça vaut la peine donner à sa vie un sens. Le 25 janvier 1987, en l'église Saint-Paul d'Alba, se sont déroulées deux cérémonies solennelles en Italie. La session de clôture du procès informatif sur la vie, les vertus et les œuvres du serviteur de Dieu Jacques Alberione, puis la session de clôture du procès apostolique sur la vie, les vertus et les œuvres de la servante de Dieu, Tecla Merlo. Et les témoins sont passés devant les membres du tribunal pour apporter leurs connaissances personnelles, répondre aux questions des juges. C'est comme ça que ça se fait des procès pour rendre la mémoire d'un grand ou d'une grande chrétienne, d'un grand chrétien ou d'une grande chrétienne, qu'on puisse se souvenir de leur nom, de leur vie, et du témoignage de leur vie, et qu'on puisse modeler nos vies sur ces gens-là. Alors les témoins sont passés devant les membres du tribunal pour apporter leurs connaissances personnelles, répondre aux questions des juges. Tous les procès de ce genre tendent à établir si la personne en question a exercé en degré héroïque les foi, les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, et aussi les vertus qu'on appelle cardinales, c'est-à-dire la prudence, la justice, la force et la tempérance. Ou dans les cas du sacrifice de la vie pour la foi, sur l'épreuve qu'il y a eu un authentique martyr, et en sœur Tecla Merlo, eh bien, ressorte comme évidente une foi indiscutable, une espérance sans faille, une charité totale et universelle. La renommée de sainteté auprès des fidèles est aussi d'une importance notoire. Pour sœur Merlo sont arrivées plusieurs milliers de lettres, écrites par des personnes attestant avoir reçu des grâces par l'intercession de cette servante de Dieu qu'avait invoquée. Comme pour tous les candidats, il y aura aussi pour sœur Tecla Merlo un examen approfondi de ses écrits. Alors les documents du procès, signés et scellés, se trouvent à Rome, dans les bureaux de la congrégation, pour la cause des saints. Et alors, on peut dire que on peut la considérer comme la vénérable Mère Tecla Merlo depuis le 22 janvier 1991. Selon la procédure, pour procéder à la béatification, il sera requis que ce soit produit un miracle attribué à l'intercession de sœur Tecla Merlo et que le procès sur ce miracle ait été conclu dans un sens positif. Et pour la canonisation, bien, on suit le même processus, c'est-à-dire qu'on conclut favorablement le procès sur un second miracle, cette fois-ci, survenu après la béatification. Et si la servante de Dieu, la vénérable Tecla Merlo, parvient au dernier stade de la procédure, eh bien là nous aurons sur les autels une sainte. Une sainte qui a été associée d'une manière éminente à Un apostolat sacerdotal, je dis bien un apostolat sacerdotal exercé et fait exercer d'une manière moderne et avec des moyens modernes, qui sont les imprimés, la radio, la télévision même.